Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Stéphanie Borg en duo avec Julien Verchère pour cette émission coproduite par On Express et Tout Lyon, votre média lyonnais. Il est né à Saint-Étienne, mais c'est Lyon qu'il a choisi pour monter son business il y a près de 25 ans. Il est le fondateur et le dirigeant de la marque Ninkasi, groupe hybride basé sur le triptyque bière, burger, musique. Entrepreneur visionnaire, resté fidèle à un concept imaginé aux États-Unis, il est aussi un fervent défenseur d'une entreprise citoyenne pleinement intégrée dans la cité. Sans plus attendre, rejoignons Christophe Fargier sur le quai du Rhône Express à La Part-Dieu, qui nous attend pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 5, c'est parti.
Bienvenue à bord du Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Christophe Fargier, bonjour.
Bonjour.
Le Rhône Express démarre, et vous, Christophe Fargier, où situeriez-vous votre point de départ, où et comment est née l'aventure Ninkasi ?
Le point de départ, c'est le mois de juillet 1995, à la fin de mes études, où je me pose la question de ce que je vais faire. Et je suis à ce moment-là avec un ami américain qui s'appelle Kurt Hoffman, et il me parle des microbrasseries qui sont très développées dans sa ville. Il est originaire de Portland dans l'Oregon, sur la côte ouest. Et il me dit, Christophe, si tu veux, moi je te trouve du travail dans une brasserie à Portland et tu apprends le métier de brasseur, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner en France.
Et ensuite, vous avez décidé d'importer ce savoir-faire américain en France à un moment où c'était peut-être pas encore très développé.
Alors à l'époque, il y avait à Lyon trois établissements qui faisaient leur bière. La brasserie Georges, qui a une vraie tradition dans la bière. Il y avait le Barrel House, qui était rue Sainte-Catherine, et le Champ de Claire, sur le plateau de la Croix-Rousse. Donc on n'a pas été les premiers à se lancer dans l'aventure. C'est vrai que nous, ce qui a été innovant, c'est la taille qu'on a donnée au projet. Puisqu'on s'est installé dans un bâtiment de grande taille à Gerland, on a fait une brasserie moderne en inox et on a joué vraiment la carte de la modernité dans notre projet.
Et donc là, on est en quelle année, à quel moment précisément ?
Alors l'ouverture du Ninkasi, c'est le 11 septembre 1997 à Gerland, donc dans un ancien entrepôt, entreprise de transport. C'est pour ça que le Ninkasi à Gerland, il est un peu surélevé, il faut monter des marches. Puisqu'en fait, il y avait les trains qui arrivaient sur l'impasse Prosper-Chappé et de l'autre côté, rue Marcel-Mérieux, en fait, les camions qui partaient pour livrer la ville.
Et racontez-nous un peu qui on trouve là, à ce moment-là, dans le projet. Vous êtes une petite équipe, comment elle se constitue
Bah, le Ninkasi, c'est une aventure humaine. Donc voilà, il y a la rencontre avec Kurt. Ensuite, on a embarqué dans l'aventure des amis, un architecte, Cyril Alanic, qui était venu aux États-Unis nous voir et qui a travaillé sur l'aménagement du lieu. Je suis allé chercher deux personnes avec qui j'avais fait mes études, Vincent Covolo et Cécile Cristallini. Et puis on a recruté des personnes parce que le lieu à son démarrage avait besoin d'une belle équipe. Voilà, et c'est depuis cette date une vraie aventure humaine. Aujourd'hui, il y a évidemment beaucoup de gens qui composent cette équipe, mais je pense qu'on a toujours veillé à ce que les gens trouvent du sens, trouvent une place dans cette aventure. Moi, j'aime bien la notion aussi d'intrapreneuriat, voilà, permettre à des gens de grandir, de réaliser leurs rêves à l'intérieur du projet Ninkasi.
Donc au départ, j'imagine que vous n'aviez pas forcément la gamme qu'on peut retrouver maintenant au Ninkasi. Racontez-nous un petit peu comment Ninkasi a grandi, l'itinéraire de ce qui est devenu une marque référence désormais régionalement au moins.
Alors sur la bière, ça a été des premières années difficiles parce que le référentiel, c'était des bières industrielles avec peu de goût. Puisque finalement le standard à l'époque, hein, c'est la bière blonde légère. Donc nous, on arrive avec des bières 100% malt, fermentation haute, on appelle ça des bières de type L, comme le font les Anglais ou les Belges, donc avec une fermentation qui apporte du goût, voilà, de l'amertume, de l'aromatique. Hein. Les IPA en 1997, c'était absolument pas connu. Et donc beaucoup de clients qui nous disent que notre bière est pas bonne. Donc notre
compliqué ça quand on débute. Ben, à entendre.
C'est oui, parce qu'en plus moi je fabrique et puis je me retrouve au bar. Je suis fier de ce qu'on propose. J'aime les produits qu'on propose. Après c'est un travail de pédagogie. Je veux dire le discours à l'époque c'était de dire ben la perception que vous avez du produit, je veux dire elle vous appartient et si vous aimez pas on n'a rien à dire. Par contre on peut pas vous laisser dire qu'elle est pas bonne et on vous explique pourquoi elle a du goût. Peut-être que ce goût vous plaît pas. Mais nos bières ont du goût parce qu'elles sont 100% malt, parce qu'on utilise beaucoup de houblon, parce qu'on fait des styles originaux, hein, on sort de la blonde. Et voilà, à l'époque, une pale ale, une bitter, une porter, une triple, une IPA, voilà, c'était des choses pas du tout connues. Hein. La culture bière n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc de la patience. Ça a pris du temps et finalement, on a petit à petit trouvé notre clientèle. C'est-à-dire que ceux qui n'aimaient pas nos bières, ben, ils ne sont pas revenus. Mais ceux qui s'intéressaient à la démarche sont revenus. Puis ils en ont parlé autour d'eux et on a réussi à faire notre place.
Et finalement, vous partez d'une quasi-gerland et vous arrivez à essaimer petit à petit. Aujourd'hui, on a combien de Ninkasi dans le réseau ?
Alors aujourd'hui, le Ninkasi, c'est 26 établissements. Le fait qu'on ouvre des établissements, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas uniquement à celui qu'on a à Gerland, c'est avant tout lié à la nécessité de survivre au moment où on a pris une décision audacieuse qui est de créer en 2000 une salle de spectacle. Et cette salle de spectacle nous fragilise fortement parce que sur la jauge du chaos, on est sur l'émergence. Et en fait, la production de spectacles sur des artistes émergents est très difficile à atteindre. Donc on se met à perdre beaucoup d'argent. Et donc on décide, pour pouvoir maintenir ce projet et rester indépendant, d'élargir la base commerciale. On se dit, la musique, ça nous amène de l'image, de la notoriété. Donc allons ouvrir des petits Ninkasi dans le centre de Lyon pour renforcer la dimension économique du projet et pour pouvoir maintenir, soutenir la dimension culturelle qu'on était en train de faire grandir avec le chaos.
Et après Lyon, donc, il y a eu d'autres villes en région Rhône-Alpes, c'est ça ?
Alors ça a pris du temps. On a d'abord élargi le réseau à l'intérieur de la métropole lyonnaise avant de nous éloigner. En fait, l'établissement de Saint-Romain, ça remonte à 7 ans, vous voyez. Et on est sorti il y a 2 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes en allant à Dijon et on vient d'ouvrir au mois de février de cette année à Rouen.
Alors Ninkasi, c'est aussi pas mal d'innovation. Vous pouvez nous en dire quelques mots puisqu'on on a la bière, mais vous êtes aussi lancé dans le whisky récemment. Comment vous est venue l'idée et comment vous l'avez développée ?
En fait, on a fait le choix en 2012 de partir à Tarare pour installer notre nouvel outil de production parce qu'on était à l'étroit à Gerland. Quand on s'est mis à chercher un site pour installer notre brasserie, on a fait le choix de la ville de Tarare à cause de la qualité de l'eau. En fait, dans le département du Rhône, c'est un bassin granitique, c'est la seule zone granitique du Rhône. Et dans le Beaujolais vert, en fait, on a une eau extrêmement douce qui est captée sur le barrage de Joux, juste au-dessus de Tarare. Donc une eau qui n'a pas de minéraux. C'est pour ça qu'il y avait énormément de teinturies dans cette vallée. Pour faire le blanc éclatant, on a besoin d'une eau sans minéraux. On a fait le choix de partir là-bas à cause de cette qualité d'eau. Et quand on a la chance d'avoir une ressource aussi qualitative, on se pose la question aussi de ce qu'on pourrait en faire. Et assez naturellement, le sujet du whisky est venu. Alors on a aussi fait une belle rencontre en la personne d'Alban Perret, qui était un vigneron distillateur qui est venu frapper à notre porte pour nous dire qu'il rêverait de se lancer dans la fabrication de whisky. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire un whisky, il faut commencer par faire une bière. Alors pas une bière tout à fait classique, c'est une bière dans lequel on n'utilise pas de houblon, donc pas d'amertume, pas d'aromatique. On appelle ça plutôt un wash. Et ce wash est une bière en fait très alcoolisée. On utilise une levure qui permet d'avoir une bière environ à 10 degrés d'alcool qu'on distille. Et c'est ça qui donne le whisky. Donc c'est très naturel quand on est une brasserie et quand on a une eau exceptionnelle comme à Tarare, finalement, d'aller vers l'univers du whisky.
Donc finalement, le whisky français a peut-être un avenir. C'est encore assez confidentiel par rapport au... Voilà, d'autres pays qui ont une tradition plus ancienne, que ce soit l'Écosse, le Japon.
Alors, sur le whisky, ça va très vite. C'est un peu une anomalie que la France ne fasse pas de whisky, parce qu'on a tout. On a beaucoup plus de choses que l'Écosse. On a déjà la matière première, hein, et il y a beaucoup de whisky écossais qui sont fabriqués avec du malt français. La France est un pays exportateur de malt. On a la fabrication des alambics, la fabrication des tonneaux. On a un savoir-faire exceptionnel dans la tonnellerie. On a les savoir-faire de distillation, alors qui ont été mis au service souvent d'alcool de fruits, parce que c'est plus facile de distiller un alcool de fruits qui souvent est bon très rapidement après avoir été distillé, ce qui n'est pas le cas des alcools de grains qui nécessitent un élevage pour pouvoir être bonifié. Et puis on a le savoir-faire d'élevage, puisque dans le vin, élever les vins, les faire vieillir dans des tonneaux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment la possibilité de faire émerger un whisky français de très grande qualité. Et même c'est ce qui se passe, hein, puisque aujourd'hui il y a plus de 400 distilleries qui se sont créées en France, et il y a des gros acteurs du monde des spiritueux qui se lancent, notamment dans le cognac, hein, où il faut savoir que les alambics ne fonctionnent qu'une partie de l'année. Donc aujourd'hui ils se sont mis à fabriquer du whisky, et nous on travaille avec la Maison du Whisky, qui est le plus gros distributeur en Europe, et ils pensent que en 2023 ou en 2024, le whisky français en volume va passer devant les whiskies asiatiques. Donc c'est en train de progresser très très rapidement.
Ce qui veut dire des portes peut-être ouvertes à l'export pour votre whisky prochainement, ou c'est déjà le cas?
Oui, c'est déjà le cas. On a notre whisky qui a commencé à voyager en Chine, qui est présent dans des grands hôtels chinois, et on est en cours de négociation pour attaquer sur 2023 le marché américain.
Alors après la bière, le whisky, vous avez d'autres pistes d'innovation pour les mois et années à venir ?
Les projets, c'est la vie, hein, donc on a bien l'intention de continuer à être une entreprise vivante. Là, dans l'année qui vient, on travaille avec la maison Augier, qui est à côté de Vienne, sur un cidre. Aujourd'hui, on travaille avec les Vergers du Délice, qui sont à Albertville. Donc, c'est les Vergers du Délice qui nous font le cidre, sur lequel on met une touche Ninkasi en le dry hopant, c'est-à-dire en rajoutant du houblon aromatique. Là, avec l'entreprise Augier, on va acheter un jus de pomme qu'ils auront pressé, et on va intégrer la partie fermentation. Voilà, donc c'est un projet qui nous passionne, parce qu'on a des savoir-faire, hein, mais en même temps ça nous fait découvrir de nouveaux univers. Et puis il y a vraiment cet enjeu à valoriser l'excellence de nos territoires, hein, et voilà, l'entreprise Augier a un vrai savoir-faire dans la culture des arbres fruitiers. On s'est lancé dans la poire. On a trouvé un producteur de poire, William, qui nous fait des poires extraordinaires. Il est en sommet de coteau sur un sol très argileux, ce qui permet d'avoir des poires extrêmement aromatiques. Voilà, on va avoir un nouvel alambic qui vient d'une entreprise qui est à côté d'Épinal, qui s'appelle Honoré, qui fait beaucoup d'alambics dans l'univers du rhum, mais qui a développé une technologie de distillation sous vide qui permet de distiller à très basse température. Donc on fait beaucoup d'économies d'énergie, et aujourd'hui il y a un enjeu à être sobre dans nos process. Mais en même temps, le fait de distiller à très basse température permet de capter des arômes qu'on ne capte pas aujourd'hui sur des distillations à plus de 80 degrés. Donc c'est très prometteur aussi, et sur les whiskies et sur les alcools de fruits.
Alors on comprend bien à travers vos propos que vous êtes sorti de la logique régionale pour explorer nouveau territoire. Quelque part, est-ce que vous êtes encore arrangé dans la catégorie des micro-brasseurs ? Certains diraient le contraire. Qu'est-ce que vous leur répondrez ?
Aujourd'hui, on a la taille qui est la nôtre, hein, c'est-à-dire qu'on est une brasserie qui fait 40 000 hectolitres. Donc oui, pour certains, ça peut paraître gros. Il faut savoir qu'au niveau européen, on est considéré comme une petite brasserie jusqu'à 200 000 hectolitres, hein, ce qui permet d'avoir des droits d'assises réduits. Après, les ordres de grandeur, c'est important de les rappeler. Aujourd'hui, vous avez des usines Cronenbourg dans le nord de la France qui peuvent sortir plus de 10 millions d'hectolitres de bière. Donc voilà, nous on a un outil qui va nous permettre de nous approcher des 100 000 hectolitres. Ça va être à peu près la taille de notre brasserie, parce qu'on n'a pas du tout d'ambition à envoyer notre bière à l'étranger. Le terrain de jeu, ça va être la France. La bière est un produit fragile qui voyage mal, c'est pas le cas du whisky. Donc il n'y a pas de volonté d'envoyer des containers de notre bière à l'autre bout du monde. Et je pense qu'à 100 000 hectolitres, on reste une petite brasserie avec ce souci de s'enraciner dans notre territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut rayonner plus largement. Mais nos racines sont bien ici à Lyon. On a bien l'intention de se nourrir de tous les savoir-faire de notre région. Pour vous donner un exemple, on a notre bière La Crique Ninkasi, qui est faite avec une petite cerise qui vient du Nord Isère, ce qui s'appelle la ratafia. Ce sont des arbres qui étaient arrachés puisqu'ils servaient à faire le kirsch. Et la consommation de kirsch chutant, les agriculteurs n'avaient plus de débouchés. Donc voilà, c'est ça aussi. Le sens de notre projet, c'est permettre à des agriculteurs du territoire qui ont des savoir-faire exceptionnels de trouver des débouchés et faire en sorte que ces savoir-faire ou cette diversité qui existe sur notre territoire ne disparaisse pas.
Alors, on revient un petit peu en arrière. Vous parliez tout à l'heure de Portland, de cette première découverte des microbrasseries. Est-ce que vous savez brasser vous-même ? Est-ce que vous pratiquez encore dans votre propre outil de travail ?
Non, je ne produis plus. J'ai bien sûr appris à brasser la bière. Quand je suis parti aux États-Unis, on avait un petit système de brassage. Pendant une année, on a dû brasser une centaine de recettes. J'ai les premières années du Ninkasi été brasseur, mais au bout de la troisième année, même deux ans et demi, il y a David Hubert qui nous a rejoints. J'ai fait une école à Chicago qui s'appelle le Siebel Institute of Technology pour apprendre le métier. Voilà, beaucoup de lectures. J'ai eu ce besoin d'apprendre à fabriquer quelque chose avec mes mains. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens qui sont dans la reconversion, après avoir fait des études, moi j'ai fait des études de commerce, j'ai eu aussi ce besoin d'apprendre à fabriquer quelque chose avec mes mains, et j'étais très heureux d'apprendre à fabriquer de la bière, qui était un produit que j'appréciais beaucoup à l'époque. Les bières que je buvais dans les années 90, et un petit clin d'œil à cette brasserie bretonne, mais c'était Coreff. J'adorais les bières Coreff. Alors difficile à trouver à Saint-Étienne à l'époque, ou à Lyon, hein, parce que j'ai fait aussi une partie de mes études à Lyon. Il y avait déjà à l'époque quelques brasseries qui faisaient des produits qui avaient du goût.
Alors Christophe Fargier, si vous étiez une bière, laquelle seriez-vous et pourquoi ?
Si j'étais une bière, je serais une bière de style saison. C'est vraiment une bière que j'aime beaucoup, qui était une bière de soif, produite pour les gens qui travaillent dans les champs. C'est celle que je préfère dans le style, c'est Dupont, une brasserie belge. En fait, c'est une bière qui a une forte aromatique, hein, qui va un peu sur les bières blanches, très sèche, très désaltérante, voilà, qui a vraiment du goût. Là, faut aimer les bières qui ont du goût, pas trop alcoolisées. Voilà, c'est la bière que je rêve de boire après une belle randonnée dans les montagnes avec une magnifique vue sur nos Alpes magnifiques.
On n'est pas un jour de match, mais je vois que votre regard est attiré par le Groupama Stadium. Spectateur ou supporter ?
Un Groupama Stadium, c'est quelque chose qui a du sens, parce qu'on a notre histoire, elle est aussi un peu liée à celle de l'OL. On est arrivé à Gerland, qui était un quartier pas très fréquenté par les Lyonnais, hein, à l'époque. Il faut se rappeler que le métro, il est arrivé trois ans après notre ouverture, ce qui a été pour nous un vrai soutien. Alors ça a été d'abord le Mondial 98, où les bus amenaient les spectateurs devant le Ninkasi. Donc ça nous a permis de nous faire connaître et de trouver notre public. Et il y a eu quand même à ce moment-là, 98, le début de la belle époque de l'OL, où ben voilà, il y a eu tous ces beaux succès qui ont attiré beaucoup de spectateurs. Notre réussite, elle est aussi liée à celle de l'OL, puisqu'on a bien profité pendant ces années-là des fortes affluences qu'il y avait au stade de Gerland.
Alors, le brassage passe aussi par la musique au Ninkasi. Je crois savoir qu'il y a un fonds de dotation. On a déjà parlé de la salle tout à l'heure. Vous pouvez un peu nous décrire votre approche de la musique?
En fait, ce qui s'est passé en 97, quand on a créé le Ninkasi, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement créer une fabrique de bière, qu'il n'y avait pas de débouchés. Les bars-restaurants étaient sous contrat, avec aucune possibilité de pouvoir référencer une bière comme la nôtre. Et les circuits de distribution, même spécialisés, ne s'intéressaient pas à la bière. Il n'y avait pas de marché à l'époque. Donc la nécessité pour nous, dans la continuité de la fabrique de bière, de créer un lieu de consommation pour créer notre propre débouché. Et à l'époque, on ne savait pas faire grand-chose. Moi, je ne suis pas cuisinier. Je n'avais pas une grosse expérience de bar et de restaurant. Donc, on a fait le lieu de nos rêves, celui qu'on aurait aimé avoir en tant qu'étudiant. Et on a donné une place extrêmement importante à la musique parce qu'on était des fans de musique. Même parmi les gens que j'ai cités, Cyril, Vincent étaient des musiciens. Donc, en fait, on s'est fait plaisir. Mais je crois que c'est le fil rouge un peu de toute cette aventure. Dans tout ce qu'on entreprend, il y a une notion de plaisir qui est extrêmement forte.
C'est quelque chose que vous faites infuser dans votre entreprise. La musique, c'est un exemple parmi d'autres de la conception d'une entreprise que vous voulez citoyenne, c'est ça ?
En fait, quand on a créé un lieu, on s'est dit on va faire un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de découverte. Alors, on a utilisé ce slogan « lieu de brassage ». Et on trouve que la musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, ça nous fait vibrer, ça crée de l'émotion. Et quand on vibre et qu'on a de l'émotion, on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir aux autres. Donc c'est un formidable vecteur pour créer du lien social, pour développer le vivre ensemble. En 97, on en avait déjà besoin, on en a toujours énormément besoin en 2023. Voilà, moi je trouve qu'on est des sociétés, une société qui se fragmente. Voilà, les réseaux sociaux nous font beaucoup de mal hein, parce qu'on s'enferme dans des communautés qui nous ressemblent. Et aujourd'hui, on a besoin de la culture, on en a encore plus besoin qu'avant pour nous ouvrir sur des univers qui ne sont pas les nôtres. Voilà, on s'enrichit, on a besoin des autres, nous sommes des êtres profondément sociaux. Notre cerveau, il faut le savoir, il y en a un tiers pour nous, deux tiers pour les autres. Et je crois que c'est aussi un des sens du projet qu'on développe à notre échelle, hein, humblement, faire en sorte que nos lieux soient des lieux qui permettent de recoudre un peu la société qui se délite.
Et comment on le fait passer dans le management des salariés ? Vous avez des méthodes particulières pour coller à cette volonté ?
En fait, c'est du bon sens paysan qui nous fait un peu fonctionner. Le bon sens paysan, c'est de dire qu'on ne peut pas être un lieu qui accueille bien ses clients si on n'a pas commencé par bien accueillir ses collaborateurs. On ne peut pas être un lieu qui prend soin de ses clients si on ne prend pas soin de ses collaborateurs. Ça s'appelle la symétrie des attentions. Donc, comme je vous l'ai dit, la volonté de vivre une aventure collective, donc c'est-à-dire de laisser une place à chacun, et cette notion d'entrepreneuriat, d'intrapreneuriat, donc donner de l'autonomie, aider les gens à trouver du sens dans ce qu'ils font, et puis les faire grandir, c'est-à-dire beaucoup d'investissement dans la formation, pour qu'ils aient les moyens d'agir, des expertises. Voilà, c'est du bon sens. Hein. On a fait les choses en essayant d'être cohérent entre ces aspirations et puis après, tous les jours, les pratiques. Voilà, une grande qualité de dialogue, c'est-à-dire on accepte le désaccord, la contradiction. N'importe qui a le droit de s'exprimer sur n'importe quoi à partir du moment où il est factuel et il est constructif. Voilà, c'est des choses qui ont fonctionné jusqu'à présent et qu'on essaye de préserver. C'est un enjeu collectif, hein, tout le monde doit être garant de ça, parce que c'est un trésor, hein, la confiance, se sentir en sécurité dans un environnement bienveillant, ça demande énormément de travail pour le construire et c'est fragile.
Et cette aventure Ninkasi, elle correspond aussi à des aspirations personnelles. Comment est-ce que vous vous donnez du sens à votre quotidien au-delà du travail ?
Je crois que pour être engagé dans ce qu'on fait, on a besoin de sens. Donc quand on a créé le Ninkasi avec Kurt, on, On s'est posé la question de ce qui allait faire que chaque matin, on allait se lever avec la banane, avec l'envie d'y aller. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire prendre du plaisir, s'enraciner dans notre territoire, rencontrer des gens exceptionnels et faire des choses avec ces gens. C'est participer à la vie de la cité, avoir le souci de nos externalités, c'est-à-dire quand on met dans la balance, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas parfait, mais se dire que le plus, les externalités positives sont plus nombreuses que les externalités négatives. La satisfaction, la fierté du chemin parcouru, de voir toutes ces personnes qui ont grandi ou toutes ces belles histoires qui sont nées. Vous l'avez dit, Ninkasi, une institution. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi cette dimension affective, alors qui est partie de nous. Moi, j'ai beaucoup d'affect avec l'histoire de l'entreprise, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu des choses fortes dans les Ninkasi et qui, aujourd'hui, sont attachés à la marque, à cette histoire, aux valeurs qu'on porte, au sens de notre projet. Donc, c'est ça qui permet de rester très engagé, de ne pas baisser les bras et de continuer à aller de l'avant, même dans les périodes compliquées comme celles qu'on vit actuellement.
Et vous avez parfois besoin de vous évader, de vous détacher de tout cela pour y réfléchir tout simplement ?
Oui, je pense que la déconnexion c'est extrêmement important et puis il faut savoir prendre du recul, de la hauteur. Il faut savoir aussi relativiser, parce que quand on est très engagé, des moments on peut se faire d'une montagne, des choses qui sont finalement pas si importantes que ça. Donc oui, j'ai mes petites gimmicks pour prendre cette hauteur. On a la chance d'être dans une région extraordinaire avec notamment de très belles montagnes. Donc voilà, les semaines peuvent être difficiles, mais quand vous vous retrouvez le week-end au sommet d'une montagne dans les Alpes, ça change tout. Et vous revenez avec souvent un recul et puis une sérénité que nous donne la reconnexion à la nature. Que moi je trouve vraiment, vraiment chaque fois que je fais de la randonnée, un peu d'alpinisme, et voilà, ça me fait un bien fou.
Alors on n'est plus très loin de l'aéroport, et si vous aviez à choisir le voyage idéal, quel serait-il ?
Je pense que je prendrais le train et je prendrais pas l'avion. Non, je suis pas contre l'avion, hein. Mais je pense que c'est des choses qu'on doit maintenant faire avec parcimonie. De temps en temps, hein, les voyages sont extraordinaires. Voilà, je suis retourné l'été dernier à Portland. Hein, ça faisait...
En train ?
Ah non, j'y suis allé en avion, mais avec mes deux enfants pour leur montrer mon univers, là où tout est parti. Mais vous voyez, j'ai attendu plus de 25 ans pour y retourner. Mais je me satisfais de voyages qui sont... finalement qui peuvent se faire autour. Moi, il y a un voyage qui me fait très envie, j'en ai parlé avec mes enfants, c'est de faire les Alpes en train un été, voilà, parce que c'est extraordinaire, hein, les Alpes, hein, des Dolomites, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, voilà, c'est ça qui... Donc prendre le train à la gare de Saint-Exupéry, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un train qui parte de Saint-Exupéry en direction... Des Alpes, il faudra que je fasse un petit crochet par, par une autre gare avant.
Et est-ce que ces cheminements, ça vous permet aussi de saisir des tendances, de sentir un peu l'époque et finalement de vous nourrir de tout ça ?
Oui, c'est les rencontres. Je pense qu'aujourd'hui, voyager et faire de belles rencontres, s'intéresser vraiment aux régions qu'on traverse, aller à la rencontre des gens et puis s'écarter, hein, des chemins les plus fréquentés. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens au Ninkasi qui sont comme ça. Donc aujourd'hui, sentir les tendances, c'est un vrai travail collectif. On est nombreux au Ninkasi à le faire.
Alors, nous voilà arrivés au terme de ce voyage. Il me reste à vous remercier, Christophe Hargé, d'avoir partagé ce beau moment avec nous.
Ben, merci à vous.
Terminus, aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.